Ça n'arrive pas souvent, mais je dois dire que je suis un peu intimidé par la personne qui nous fait l'honneur d'être à Académ' aujourd'hui. Cette personne est polonaise. Anna Bikont, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité ici.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié en 2025, en français, c'est-à-dire la traduction française, de ce livre qui est devant nous, qui est « Le prix à payer » aux éditions Noir sur Blanc, à la recherche des enfants juifs en Pologne après la guerre. Vous avez été une opposante au régime communiste, vous avez été journaliste pour Informacja Solidarności, c'est-à-dire le journal clandestin du mouvement Solidarność, qui s'est soulevé contre le mouvement, contre le gouvernement communiste et qui a fini par mener à la tête du gouvernement libre Lech Wałęsa. Et vous avez ensuite, à partir de 82, travaillé pour le Tygodnik Mazowsze, qui était encore une fois une publication clandestine, un hebdomadaire qui rendait compte de ce qui se passait en Pologne, jusqu'au moment où en 89, vous avez été cofondatrice d'un quotidien qui existe toujours, Gazeta Wyborcza, qui était le premier quotidien qui n'était pas sous le contrôle d'un gouvernement communiste en Pologne. Mais aujourd'hui, je vous ai demandé de venir à Académ' pour présenter ce livre particulier qui fait suite à une recherche que vous avez commencée sur Irena Sendler, qui a sauvé beaucoup d'enfants juifs, beaucoup, pendant la guerre. Et en travaillant sur Irena Sendler, vous êtes tombé par hasard sur deux cahiers qui avait été rempli par Leib Meisels, qui faisait partie du comité central des Juifs de Pologne, en 1947 et en 1948, il est allé à la recherche des enfants juifs qui avaient été cachés. Et alors, il faut rappeler peut-être que la population juive en Pologne était de plus de 3 millions d'habitants en 1939, qu'il en restait à peine 200 000 après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que lui a retrouvé les traces ou les noms de 52 enfants. 52. C'est incroyable. Seulement 52. Et lui, il en a retrouvé, sur les 52, 33. Et c'est à la suite de ce cahier que vous avez, redécouvert, vous êtes allé à la recherche de ces enfants qui ont survécu. Et c'est ce que vous racontez dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a mis sur la trace de Leib Meisels?
C'était justement mon livre sur les enfants cachés en Pologne. Et j'ai pensé, je voulais trouver, montrer, parce que ce que, vraiment le problème d'écrire sur la Shoah, c'est que ce qu'on écrit, c'est pas une vraie histoire. Parce qu'on écrit la plupart du temps, moi j'écris la plupart du temps, parce que j'aime parler avec les gens, je parle des gens qui ont survécu. Et les gens qui ont survécu, ce sont des exceptions. La vraie histoire de la Shoah, ce sont les gens qui sont morts. Et qui ne peuvent pas parler, mais je voulais tout de même écrire un livre sur les enfants qui sont morts malgré qu'on a essayé de les sauver, mais que ça m'a... Enfin, que c'était très difficile, pas seulement dans le ghetto, mais après dans les villes où il y avait tant de gens qui pouvaient donner un enfant à un Allemand pour 2 kilos de sucre. Et montrer ces enfants qui n'ont pas survécu, bien qu'on a essayé. Et j'ai pensé, Irena Sendler, qui est connue parce qu'elle a sauvé beaucoup d'enfants, je vais trouver dans des matériaux sur elle ces enfants qui sont morts. Et puis, j'ai cherché longtemps, j'ai pas pu trouver. C'est tellement difficile de raconter sur un enfant qui est enfin mort, qu'on n'a pas arrivé à sauver, qu'ils n'ont pas de nom, on ne raconte pas on ne sait pas de quoi ils avaient l'air, quel âge avaient-ils avant de mourir. Alors j'ai pensé bien, je vais écrire sur les enfants qui ont survécu, mais quand on voit comment c'était difficile de survivre, c'est une histoire vraiment qu'on peut très bien s'imaginer des centaines, des milliers d'enfants qui n'ont pas survécu à leur place. Et quand j'ai commencé à m'occuper de Irena Sendler, qui est une héroïne, mais tout ce qui était autour raconté était un mythe autour d'elle, parce que c'était un mythe pour raconter que Sendlerova était l'émancipation de l'attitude polonaise envers les Juifs pendant la guerre.
L'émanation
de l'attitude polonaise envers
l'héroïsation des Polonais pendant la guerre.
Et quand je regardais de près les faits, c'était des histoires sentimentales qui n'avaient rien à voir avec la réalité de la guerre que je connaissais déjà. J'avais écrit déjà plusieurs livres sur la Shoah. Et alors j'ai pensé, bon, je vais aller à l'Institut historique juif de Varsovie, c'est fantastique ce qu'ils ont dedans, et je vais lire comme ça, au hasard, des choses, et enfin je vais trouver des traces vraies qui raconteront vraiment l'histoire, qu'est-ce qu'a fait Sendlerova et combien d'enfants on pouvait sauver. J'ai trouvé beaucoup de choses sur Sendlerova, sur les enfants sauvés, et entre autres, une de ces enfants sauvés par elle, avec laquelle elle habitait pendant la guerre, elle est mentionnée dans les cahiers de Meisels. Et après, j'ai écrit ce livre. Après, je pensais qu'est-ce que je vais écrire. J'avais quelques idées. Mais ces cahiers, je me le rappelais d'eux. Je me levais le matin et je pensais sur ces cahiers. Parce qu'il y a quelque chose de tellement émouvant, parce que c'est un journal, mais c'est le contraire de journal intime. Aucun sentiment, aucun qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'aller chercher ses enfants. C'est seulement l'heure où il est parti, quelle communication il a pris, est-ce que les Polonais veulent vendre l'enfant et pour quelle somme.
Vendre ?
Oui, parce que c'est l'année 47-48. Donc ses enfants sont pour une bonne raison encore chez les Polonais et non chez les
organisations juives.
Et non chez les organisations juives. Donc, ce sont des enfants qu'on essaye d'acheter. Et des fois, ça arrive qu'ils viennent, ils veulent acheter l'enfant et les Polonais disent non, c'est notre enfant, on l'adore, on l'aime.
Si je comprends bien, les organisations caritatives juives tentent de récupérer des enfants qui ont été cachés. Il faut les acheter aux Polonais qui les ont cachés.
Oui, des fois, ce ne sont pas les mêmes qui les ont cachés même. Ce sont des autres auxquels ils ont commencé de travailler. Parce qu'après la guerre, les enfants juifs n'avaient aucune idée comment trouver des juifs. Alors si des juifs ne les trouvaient pas, et dans les villages éloignés, ça n'arrivait pas tellement... Enfin, ça arrivait, mais ce n'était pas tellement facile. Ils restaient comme... Ils travaillaient dans les champs, dans les fermiers, enfin comme orphelins polonais. Comme jeunes paysans polonais.
Mais c'est une forme d'esclavage s'il fallait les racheter.
Oui, c'est vrai. Ce qui est encore plus incroyable dans ce système d'acheter les enfants, c'est que les prix augmentaient d'année en année, de mois en mois. Et comment c'est possible? Il n'y avait pas d'Internet. Ce sont des villages au fond du monde. Et tout de même...
Bouche à oreille.
Oui, quelque chose comme ça. Qu'on sait que les Juifs payent et qu'on peut demander plus. C'est un contrat. On demande combien.
Une négociation. Vous avez une idée aujourd'hui du prix qui était payé pour un enfant?
Oui, on sait. J'ai trouvé les prix qui étaient payés aux enfants parce qu'il y avait une organisation juive, pas l'organisation de Meisels, ça s'appelait Coordinatia. Il y avait une organisation sioniste,
coordination
qui était spécialement fondée pour s'occuper des enfants et pour les acheter. Et il cherchait des fonds en Amérique, enfin il venait avec l'argent, il venait pour acheter les enfants juifs. Et Coordinatia, elle écrivait, il y a des grands papiers, comme ça, le plus grand format de papier possible, où il y a écrit le nom de l'enfant, le nom des Polonais chez qui il est, quand il est venu, le nom de ses parents, combien on doit leur payer, combien on leur a payé après les négociations. Et il y a des feuilles de papier avec les enfants déjà achetés.
Donc le titre de votre livre, le prix à payer, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'était quelque chose de concret. Il fallait racheter ses enfants.
Il fallait racheter les enfants. Et bien sûr, il y a aussi des gens qui ne veulent pas vendre les enfants. Moi, il y a une fille qui est adorée par son père polonais. Et lui, quand on lui demande la somme, il dit, je crois, 3 500 $. Mais il sait que c'est une somme que personne ne va lui payer. Il veut dire seulement, cet enfant, c'est pour moi, c'est comme 3 500 $. Enfin, je ne le rendrai certainement pas. C'est-à-dire, donc on doit bien examiner ces prix. Qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Mais à part ce monsieur très très gentil qui l'a dit comme ça pour dire non, je ne rendrai jamais Surtia à personne. Les autres, c'était des vrais prix, oui.
Mais alors, donc vous, à partir de ces carnets de Leib Meisels, vous êtes allé à la recherche de ces enfants et vous en avez retrouvé. Vous en avez retrouvé combien?
J'en ai retrouvé 30. Les traces, des fois, ce sont seulement des traces parce qu'ils ne vivaient plus ou la famille, mais j'ai retrouvé 31 enfants sur 33.
Et tous ont accepté de vous parler?
Non, la plupart ne vivaient plus. Il y avait des familles, trois personnes n'ont pas accepté de parler, c'est-à-dire une personne avec laquelle j'ai parlé, ou plutôt ma fille parce qu'elle parlait hébreu, et deux personnes dont les familles n'étaient pas d'accord que je parle avec elles.
Pour quelles raisons?
Une femme qui ne voulait pas parler avec moi et qui criait, enfin, c'était terrible. Et après, ma fille a essayé et elle a crié. Et après, une amie à moi qui est aussi, qui habite en Israël et qui est survivante de l'Holocauste a essayé de lui parler très tranquillement. Et elle criait, enfin, elle disait des mots qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas, enfin. Et c'était une personne qui, je crois, était complètement traumatisée par ce qui s'était passé avec elle. C'était une juive tchèque. Les tchèques, les juifs étaient dans le ghetto de Zamość. Et elle était chez une personne, il voulait le plus grand prix, je crois. C'est lui qui voulait à peu près 2 000 $. Et on l'a racheté on a négocié le prix, mais on a racheté parce que l'enfant était dans un état complètement misérable. Et je crois qu'elle s'en est pas remise. C'était une personne. La deuxième personne, c'était une personne qui vivait en Australie, qui était restée en Pologne, bien que Meisels l'avait trouvée, mais... Meisels représentait l'institution juive, les comités de juifs de Pologne.
Comité central des juifs de Pologne.
Oui, et il pensait que la Pologne est un bon pays pour les juifs et que de laisser les juifs en Pologne. Alors la plupart des enfants que Meisels retrouvait, ils restaient en Pologne, à moins qu'il y avait une famille qui venait les reprendre. Il vivait dans des orphelinats juifs qui étaient en Pologne. Et elle était en Pologne et elle est devenue enfin complètement polonaise. Elle n'a jamais dit à ses fils qu'elle est juive. Elle n'a jamais dit à son mari. Ils sont partis en Australie, ils vivaient comme des Polonais. Elle regardait tout le temps des films polonais, des séries polonaises, enfin. Et quand j'ai lu ce qu'elle a dû passer, parce qu'elle était de Świętszany, et c'était une place où on a tué les juifs sur place, et on a tué les adultes, et on a tué les enfants dans des autres fosses. Alors il y avait des centaines d'enfants qu'on tuait, elle s'est évadée de cette fosse. Et je comprends qu'on veut oublier des mémoires je pense que c'est la seule façon dont j'imagine qu'elle a pu survivre. Et je comprends qu'elle ne voulait pas en parler jamais, qu'elle ne voulait pas y repenser, qu'elle voulait. Enfin, elle ne voulait pas et que je ne crois pas que j'ai le droit de forcer tellement si quelqu'un ne veut pas. Et l'autre.
Oui.
Et l'autre femme, c'était plus simple. Elle avait aussi les enfants savaient qu'elle est juive, mais jamais elle a raconté ce qui s'est passé. Elle avait des problèmes de mémoire et ils trouvaient qu'elle était en dépression, problème de mémoire. Enfin, avec l'âge, et les enfants ne voulaient pas que je prenne contact pour le.
Alors, dans votre livre, il y a des documents photographiques aussi. Il y a un document photographique qui moi, m'a beaucoup frappé, c'est on voit au premier rang une famille, enfin des hommes juifs, religieux, orthodoxes, et derrière, il y a des bonnes sœurs en coiffe, et ce sont des survivantes, des enfants juives survivantes, qui ont été élevées, qui ont été converties au catholicisme, et qui ont grandi dans la religion catholique jusqu'à en devenir des bonnes sœurs.
C'est-à-dire, c'est une d'elles, parce que l'autre, le couvent l'a laissé partir chez sa famille juive s'il y aura quelqu'un, chaperon, qui fera attention à elle. Donc, il y a deux sœurs, et une sœur est catholique et polonaise, et une est juive.
Et parmi ces enfants que vous avez retrouvés, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été convertis de force ?
Cette fille de laquelle nous parlons n'a pas été convertie de force, au contraire, parce que c'était une des enfants, parce que aussi c'est un des problèmes quand on parle aux enfants, des enfants juifs. On pense toujours que s'ils ont été cachés, ils ont été cachés par quelqu'un. Et beaucoup d'enfants juifs et beaucoup d'enfants de ce livre se sont cachés eux-mêmes.
C'est ce que j'ai appris et ce qui m'a sidéré. Comment des enfants aussi jeunes ont pu survivre en se cachant et en cachant qu'ils étaient juifs.
Oui, c'est incroyable, c'est complètement incroyable. Mais c'était comme ça, parce que les enfants des villages partaient quand il y a eu le ghetto et il y a eu la faim. C'était le plus facile pour travailler, c'était justement si on était un gamin, on sortait du ghetto, les ghettos étaient ouverts d'ailleurs dans la plupart de la province de la Pologne, et ils allaient travailler chez des agriculteurs. Pour presque rien, mais ils recevaient quelque chose à manger pour leurs parents. Donc, ils savaient déjà
pas. Agriculteurs chrétiens, bien sûr. Des agriculteurs chrétiens.
Oui, ils allaient chez des agriculteurs chrétiens. Oui, c'était le temps de ghetto. Et donc, les Juifs étaient enfermés, même s'il n'y avait pas
de barrières.
Et ils allaient travailler. Donc, quand il y a eu les déportations des ghettos, ils avaient déjà où aller. Et une part d'eux sont allés chez les mêmes gens pour travailler, ils ont été dénoncés ou non. Ou bien il y avait des enfants comme mon héros favori, Chaya de ce livre, Nussenbaum, Chaya Nussenbaum, qui a pensé, il écrit en un patois, après la guerre, j'ai pris dans ma tête que je dois être plus loin. Et il avait 9 ans et il a fait 50 kilomètres. Et après 50 kilomètres, il s'est, enfin, jour et nuit, il traversait des villages. Et enfin, il a trouvé un village très éloigné, on ne le connaissait pas. Et
9 ans.
Et chaque jour, il se demande est-ce qu'il va mourir ou non. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas mourir. Chaque jour, ses enfants se demandent est-ce que si la femme chez laquelle je travaille, elle raconte, parce que j'entends ce qu'il raconte bien, qu'on ne me laisse pas entrer dans la maison et que je dors dehors. J'entends ce qu'ils disent et elle dit que si elle trouverait un juif, il suffirait un coup de hache. Un enfant juif, il suffirait un coup de hache. Est-ce que ça veut dire qu'elle pense qu'il est juif ou elle le dit comme ça et ça n'a rien à voir avec lui et il peut rester encore chez elle? Alors, tous les jours, ces enfants faisait un choix. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux rester encore là ou c'est mieux que j'aille autre part? Ou bien Chaya, qui avait peut-être déjà 10 ans, il a pensé quand il y avait les fêtes de Noël que c'est mieux de dire aux agriculteurs que pour les fêtes de Noël, il doit absolument aller chez ses parents. Et il a passé 4 jours très très froid dans la forêt pour faire semblant qu'il est allé voir des parents.
Les autres histoires, on va les laisser découvrir aux lecteurs, parce que je recommande évidemment la lecture de votre livre qui, à mon avis, est indispensable. On ne peut pas faire sans lire ce livre d'Anna Bécante. Je voudrais passer un petit peu sur un aspect un peu plus large. Vous êtes psychologue de formation, et en fin de compte, ce qui ressort un petit peu de la lecture, pas seulement de votre livre ici présent, mais de vos livres, c'est que survivre à la Shoah ne signifie pas obligatoirement être sauvé. C'est ce qui ressort un petit peu de la lecture, que le traumatisme, même si on est sauvé, même si on survit, le traumatisme, lui, vous poursuit, et que on ne peut pas reconstruire une enfance détruite.
Pour moi, ce qui est incroyable, ce n'est pas le traumatisme, c'est la force de vivre. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont pas eu d'enfance. C'est un cauchemar inimaginable. Par exemple, avant ce livre, je ne me rendais pas compte qu'il n'y a pas un enfant juif. Enfin, je n'ai pas trouvé des enfants juifs qui n'ont pas vu la mort de près de quelqu'un qui était proche de la famille. Parce que Sodi, les enfants étaient cachés chez des Polonais. Mais avant d'être cachés, ils étaient dans le ghetto. Ils ont vu des choses, c'est-à-dire ils ont vu des scènes épouvantables. C'est-à-dire quand ils savaient qu'un juif, que comme juifs, c'est probable qu'ils vont mourir, ils savaient qu'est-ce que c'est la mort, comment ça a l'air, comment ça fait mal, combien il y a de sang. Ils le savaient. C'était pas... Enfin, et malgré ça, après la guerre, la plupart d'eux a réussi à se faire une vie. C'est pas que qu'ils étaient très faciles avec les enfants. Souvent, ils les embrassaient pas. Enfin, ils avaient des problèmes, mais ils ont reconstruit une vie. Ils ont trouvé un travail. Ils ont fait des études. Enfin, c'est incroyable la force. La force qu'ils ont eue, malgré justement ces traumatismes.
Dans vos livres, vous parlez aussi de ce silence qui a suivi la Shoah en Pologne. Jan Gross a fait encore une fois scandale en disant que les Polonais avaient tué plus de Juifs qu'ils n'avaient tué d'Allemands pendant la guerre. Un énorme scandale aussi. Mais ce qui est frappant aussi quand même, c'est le déni et le silence qui ont régné en Pologne jusqu'dans les années 2000.
Oui, c'est-à-dire le silence, on peut dire de 1989 à 2001. Donc c'est 12 ans, oui, et c'est beaucoup. Mais avant que la Pologne était indépendante, il y avait le silence surtout, c'est-à-dire... L'histoire était complètement... C'était quelque chose d'inventé par les communistes. Enfin, il n'y avait pas de la vraie histoire. Alors, c'est difficile de parler du silence, vous savez, dans les années jusqu'à 1989. Parce que c'était un silence total sur tout. Par exemple, on ne pouvait pas raconter Yedvabne, parce que Yedvabne, c'est l'histoire... que les Russes, pourquoi en 41? Parce que les Russes sortent de la Pologne en 41. Mais on ne parlait pas de l'accord Ribbentrop-Molotov en Pologne. Ouais. Personne ne savait qu'il y a des Russes.
Alors pour les jeunes, les plus jeunes que nous, mm-hmm. qui nous regardent et nous écoutent, l'accord Molotov-von Ribbentrop a été signé entre la Russie soviétique et l'Allemagne nazie. Et c'était un pacte de non-agression qui se partageait la Pologne en deux. Mm-hmm. Une partie pour les nazis et une partie pour les soviétiques.
Oui. Et c'était complètement inconnu. Et le monde était divisé. Il y avait la bourgeoisie et il y avait le prolétariat. Alors, les juifs, ce n'était pas une catégorie. Mais après 89, on peut dire, d'un côté, c'est vraiment incroyable, ces 12 ans où encore on n'a pas parlé et que c'est Jan Gross qui est juif polonais, mais qui tout de même était de dehors, qui était en Amérique, qui a écrit ce livre fantastique qu'il a écrit. Mais d'un autre côté, on peut dire que le problème de ce qui s'est passé à Yedvabne a commencé un grand débat national, le plus grand débat sur l'histoire depuis 89. Et que tout de même, le grand débat de l'histoire après 89 était sur les Juifs.
Ada Bekont, vous êtes un mensch. Merci.
Merci beaucoup.